nos clients, il y en a un qui travaille sur le cancer, il y en a d'autres qui travaillent sur l'arthrite, il y en a un qui travaille sur les hernies discales.
Okay.
Les mal de dos, là.
Oh, ouais. ça doit être intéressant.
Oui, c'est super intéressant. T'as d'autres qui travaillent sur la peau, sur la cornée.
Et vous apprenez constamment, là.
Exactement, exactement. Puis c'est ça qui est le fun.
Bonjour, bienvenue au projet Simplement audacieux, un podcast où l'on fait ressortir les histoires d'entrepreneurs d'ici. Inspirant, authentique et persévérant. Découvrez les hauts et les bas qu'ils ont vécus.
Simplement audacieux est un projet de Lavalineuve, animé par François Bilodeau
et Ève Lacourcière.
Un grand merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Vraiment très chanceux, très content de t'avoir pour discuter de ton projet d'entreprise.
Donc, pour partir le podcast, Martin, ce que j'aimerais, c'est si tu pouvais te présenter puis dire le nom de ton entreprise.
Martin Garon, cofondateur de Biomomentum.
OK. Et puis, ce qui nous amène à faire un podcast aujourd'hui au mois de mai 2021, pour situer les auditeurs, c'est le fait que tu as gagné le concours aux entreprendre dans la catégorie Réussite Inc., si je me trompe pas.
Exactement, exactement.
Félicitations.
Ben merci, merci, c'est apprécié. Gentil.
Donc, ça, ce que j'en comprends de cette catégorie-là, c'est que ton entreprise que tu as cofondée a été créée donc il y a au moins 5 ans.
Oui, c'était en 2009. Moi puis un collègue de l'époque, Eric, on a décidé de... on a cofondé l'entreprise Biomomentum, puis on roule notre boss là depuis. Là. C'est ça, chez Biomomentum, on fait la conception, la fabrication, puis la commercialisation d'appareils de laboratoire. Nos clients, c'est des centres de recherche universitaires. Donc, c'est des profs qui, finalement, vont acheter notre appareil, qui, eux, font de la recherche. Une majorité, 99% de nos clients font de la recherche dans le domaine du bio, le biomédical, la bio-ingénierie. Et puis, ils achètent notre appareil pour pouvoir caractériser soit les biomatériaux qu'ils vont développer ou soit les tissus biologiques qu'ils vont traiter.
Wow!
Puis, donc, ça, c'est pas mal. Quand on a fondé Biomomentum, c'était le gros de notre compagnie. Là, on essaie un petit peu de développer aussi le côté service pour pouvoir plus intéresser l'entreprise privée. L'entreprise privée, eux, mettons, les pharma, les Pfizer de ce monde, ils veulent pas comme acheter des appareils, puis être obligés de former les gens, puis perdre du temps finalement. C'est qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un service. Donc, ils veulent sous-contracter des compagnies qui, eux, vont faire les tests pour eux.
D'accord.
Donc, c'est ce qu'on développe là depuis 2-3 ans, là, un petit peu.
Parce que les machines sont compliquées à utiliser ou?
Ah, c'est pas. Ben, en fait, nous, on a fait notre marque de commerce comme étant une machine qui est facile à utiliser. Je pense que c'est pas. Parce que l'affaire, c'est que lorsque tu achètes une machine, ça te prend un opérateur.
Mm-hmm.
Okay? Pour le prof à l'université, ça va être l'étudiant. Qui va l'utiliser, puis qui va se former, puis...
Ils ont plus de temps, peut-être, un peu.
Exactement. Je voulais pas le dire, mais oui, ils ont beaucoup plus...
C'est moi qui le dis, c'est
ouais, bien. Oui, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Excellent. Oui, ils ont beaucoup plus de temps que, par exemple, la compagnie pharmaceutique, où est-ce que, honnêtement, les salaires sont élevés aussi dans ce domaine-là. Donc, pour eux, se contracter, c'est plus rapide, puis moins cher.
Mais comment on en vient à fonder ce type d'entreprise-là? J'imagine que ça va un peu avec vos profils de compétences, connaissances.
Ouais. Ben là, on peut me partir bien comme fou. donc c'est ça. Moi, j'ai fait un baccalauréat j'ai fait un baccalauréat en génie physique à Polytechnique. Okay. Puis à ma troisième année, j'ai eu la chance d'avoir un stage avec un prof, un jeune prof à l'époque, et puis qui avait un projet super intéressant. Donc, qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait maintenant. Là. Donc, c'était de développer un appareil pour pouvoir faire des mesures en laboratoire sur des cartilages. Et puis, il m'a mis en contact avec 3 différents profs. Parce que pour pouvoir développer ce test-là, ça prenait différentes expertises. Ça prenait une expertise en bio, ça prenait une expertise en informatique, ça prenait une expertise même en mécanique puis en électronique.
Okay.
Ça fait que j'avais comme plusieurs comme mentors, puis il dit « Bon, ben maintenant, organise-toi avec ça, puis mets toutes les pièces ensemble. »
Ça, c'est un projet de stage au bac?
Ouais, ça, c'était un projet
intense. Ouais. Intense.
C'est un été vraiment. Ça a été un super été, là, qui a un gros tournant. Et puis, donc, à la fin de l'été, on avait un brevet. Pour l'appareil, pour une partie de l'appareil.
Mais là, tu dis, ça veut dire qu'Éric était déjà...
Non, il était pas là encore. Okay. L'Éric, lui, à l'époque, je pense qu'il était sur le point... Ben, il y a un an plus jeune que moi, ça fait qu'il était au bac aussi, plus jeune. Puis,
est-ce que vous connaissiez déjà?
On se connaissait pas encore. Il était dans le même programme que moi, mais un an plus jeune. Et puis, finalement, j'ai fait ce projet-là avec le prof. Après ça, j'ai fait une maîtrise puis un doctorat avec.
Puis Eric, c'est quoi le nom du professeur?
Michael Bushman.
Okay.
On le salue,
oui. Éric, lui, il a fait une maîtrise avec un autre prof. Il y a des vedettes profs, là. Moi, j'en avais un, lui, il y avait l'autre. Puis finalement, au doctorat, il s'est joint à l'équipe. Puis donc, c'est ça. Puis on a été comme chanceux parce que la technologie sur laquelle on travaillait a été rachetée par une compagnie. Une start-up.
Après, vous ayez obtenu le brevet.
Oui.
OK.
Parce que là, il y a eu plusieurs brevets. Puis donc, à un moment donné, la compagnie, il y a une compagnie qui s'est créée. Donc, un autre prof de Polytechnique a parti une compagnie. Et puis, il est parti avec une certaine propriété intellectuelle de Polytechnique. Puis, on a parti, moi à l'époque, j'étais étudiant, là. Donc, eux, ils ont parti la compagnie. Puis nous, ben on était comme rattachés à la compagnie. Puis, on faisait un genre de projet... en compagnie et académique. Donc ça a été vraiment vraiment formateur. Où est-ce que là tu fais pas juste un projet académique, t'es pas juste aussi dans l'industrie là, tu fais les deux.
Durant ta thèse.
Exactement. Durant la thèse. Fait que la thèse s'est éternisée, c'est super long. Et aussi tout le monde, c'était long. Mais tu sais, on avait des bonnes bourses. Puis on avait aussi une certaine paye là, finalement là, qui venait de la compagnie parce qu'on faisait quand même des choses importantes.
Donc, c'était concret
exactement, très concret. Puis qu'est-ce qu'on a fait aussi beaucoup à l'époque, c'est beaucoup de conférences. Donc on allait dans des conférences promouvoir des produits, donc on s'est habitué à parler avec les gens. Puis ben à l'époque on faisait peut-être une conférence par année là, mais quand même, tu sais, c'était le fun.
T'avais une formation en entrepreneuriat en parallèle de tes études de thèse.
Puis qu'est-ce qui était bien aussi, c'est que tu sais, on a vu une start-up.
Ouais.
Tu sais, on a vu la start-up monter aussi, l'autre monter et descendre.
Ça a pas bien fini.
Ben comment on peut dire, ça a pas bien fini pour tout le monde, disons.
OK. C'est
bon. La compagnie a fait faillite finalement.
OK.
Et puis mais la technologie qui était développée, elle a été commercialisée quand même. Mais ça, c'est une longue histoire, puis c'est pas mon histoire à moi.
Ouais.
C'est pas l'histoire de Biomomentum. Ça en fait partie quand même.
Ouais.
Parce que justement au moment de la faillite, c'est là où est-ce qu'on a créé Biomomentum. Puis on est parti finalement avec une partie de la propriété intellectuelle qu'on avait développée durant nos doctorats, qu'on avait co-développé finalement dans l'entreprise. Puis là, c'est avec ça qu'on a démarré Biomomentum en 2009.
Depuis 2009, directement à Laval.
Oui, oui. Bon, on était même avec l'ancienne compagnie, on était à Laval. Ça fait que nous, quand on a déménagé...
Mais quand tu pointes, c'est...
Ben, c'est le parc technologique. C'est bien.
Non, t'as raison.
Ouais, non, mais tu pointes dans la bonne direction. C'est juste qu'audio, ça va être difficile. Imaginez votre droite à quelque part par là, n'importe où vous êtes. Tout pointe vers le centre Romain Frappier.
Vers à l'ouest de la 15, au sud de la 440.
C'est ça.
Puis, il y a Alexandre Robitaille, je pense, qui m'a dit qu'il t'avait connu à cette époque-là. Est-ce que c'était au centre local de développement?
Exactement. C'était lui, notre genre mentor.
OK.
Puis, il était bien content parce que c'est ça, cette année-là, comme il nous appelait, il y avait deux de ses poulains qui avaient comme gagné le provincial. Nous, dans la catégorie... innovation technologique, puis Optica avait gagné le grand prix. Là.
OK.
Puis, en tout cas, il était pas mal fier. On a eu un beau week-end à Québec.
Provincial, c'est le Ose Entreprendre Provincial?
Exactement, c'est ça.
Puis Alexandre, ben, il est maintenant ici à Corpus. Là. C'est ce qui nous a amené aussi à pouvoir bénéficier des lieux ici. C'est là où j'ai eu droit à l'histoire. Puis est-ce que vous aviez aussi utilisé le soutien au travailleurs autonomes à l'époque?
Oui. Donc, c'est ça. Donc, nous, c'est ça, on est comme été, de l'ancienne compagnie, on a comme été mis à pied.
OK.
Ça fait qu'on a pu bénéficier du programme STA, soutien aux travailleurs autonomes, donc qui est donné aux gens qui sont finalement sur le chômage.
Oui.
Qui ont un projet
d'entreprise.
C'est que ça a été comme notre première subvention. C'était quand même bien. Là, on a eu comme 20 000 $ chaque pendant un an.
Ça existe encore.
Ça existe encore. Ouais. Puis donc, ça a été notre... Puis qu'est-ce qui est bien aussi avec le programme, c'est que tu peux quand même te payer un salaire. C'est pas comme le chômage. Le chômage, au moment que finalement tu as un revenu, tu perds le chômage.
Ouais.
Avec le STA, tu peux garder... Le petit montant qu'il te donne, tu peux le garder jusqu'à un an. Puis après ça, tu peux te payer un petit salaire pour compenser puis avoir un salaire qui descend.
Oui, pour soutenir un démarrage puis pouvoir vous investir à temps plein dans l'entreprise.
Exact. Oui, ouais, parce qu'à partir du jour 1, on était temps plein. Là.
OK.
Oui. Nous, on était employés temps plein du jour dans l'autre compagnie. Du jour au lendemain, ça a été fini. Puis on était 100% l'autre côté. Puis la première année, en fait, on est même resté dans les mêmes locaux. On avait négocié. Parce que nous, on prenait quand même, on était pour prendre en charge tous les anciens clients.
OK.
Donc, pour l'autre compagnie, c'était bien parce que là, t'es sûr de ne pas avoir de poursuite ou de te faire harceler parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec les appareils que tu as vendus.
Comment la pandémie vous a affecté?
En fait, pas tant que ça.
OK.
Puis, c'est quand même, on était comme prêts. Disons, notre modèle d'affaires faisait que la transition a bien été. Petite anecdote, on a une de nos employées, elle est immigrante. Et puis, quand elle a fait un programme de francisation avec nous.
OK.
Et puis, on l'a aimé, on l'a gardé. Puis, elle a fait un job extraordinaire. Puis, un jour, elle m'a dit, mon mari déménage à Québec, un nouvel job. Je suis obligé de quitter. Là, après, il a pas demandé, l'aimes-tu vraiment? déménager? T'es certaine? Là, elle a dit oui. J'ai dit, mais deux, trois jours après, je l'ai rappelé, j'ai dit non, on va adapter ton travail pour que tu puisses faire le travail de Québec.
Wow!
6 mois avant la pandémie.
Ah! C'est là que tu disais, on était prêts. C'est visionnaire.
Ben, je sais pas si c'est un bon flair, j'imagine.
Ouais.
Mais disons, puis même qu'au début, on avait comme beaucoup changé ses tâches parce que là, on disait, on va pas tout adapter notre façon de faire. Tu sais, on va lui donner des tâches qui peuvent vraiment être faites. Mais finalement, on a adapté nos façons de faire pour qu'elle puisse faire toutes les tâches. Puis, en temps de pandémie, ça a été magique. Là.
Vous étiez déjà dans l'état d'esprit de s'adapter aux conditions, pas l'inverse.
Exactement. Puis on avait déjà toute l'infrastructure informatique pour que les gens puissent travailler à distance. Elle a en fait son ordinateur à notre bureau ici à Laval.
Okay.
Puis elle se connecte à tous les jours sur son ordinateur. Puis ça a été la même chose pour toutes les autres. Quand la pandémie a commencé, ben tout le monde a travaillé de la maison, puis tout le monde faisait la même chose.
Vous avez répliqué la formule.
Puis donc ça s'est passé honnêtement très bien. Qu'est-ce qui a changé pour nous? On faisait avant une dizaine de conférences par année internationales. Donc on voyageait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis moi, justement, c'est quoi? Quand ça a commencé en 2019? Ouais, Noël, 31 décembre 2019, on met nos vœux de l'année, puis mon vœu, c'était de voyager moins.
Ah, t'as été écouté.
Bon.
En tout cas, ben c'est ça. Mon dernier voyage, c'est en février 2020. Ouais. C'est ça.
T'es bien plugué avec le Père Noël, toi?
une conférence juste avant le début de la pandémie.
Je peux te donner ma liste l'année prochaine?
Puis, ben de ce côté-là... Donc, c'est sûr qu'on peut plus aller voir nos clients directement dans des conférences, mais c'est la même chose pour tout le monde. Donc, c'est pas différent. Le support qu'on donnait à nos clients, il était déjà à distance. Ça fait que pour nous, ça n'a rien changé. La seule chose qui a changé maintenant, c'est normalement, on allait faire les installations en personne.
OK.
Donc, on était déjà très bon pour faire le soutien à distance. Puis, on s'est adapté. Puis, maintenant, on était capable de faire les installations à distance. C'est sûr que ça demande plus... Je pense pas qu'on va garder ça comme ça. Les clients sont compréhensifs. T'sais, ils savent que nos clients, ils ont moins utilisé notre appareil parce que les laboratoires étaient fermés. Donc, côté support, on n'avait pas beaucoup de support à faire parce que les gens étaient chez eux, ils n'utilisaient pas. Sinon, au début, quand on parle, mettons, au mois de mars, là, il y a certaines personnes qui attendaient de passer leur commande.
Okay.
On a eu un 2 mois là où est-ce qu'on était là. Qu'est-ce qui va se passer?
Ouais.
Puis on regardait nos fournisseurs en même temps. Là, les fournisseurs, on a un de nos fournisseurs, lui, il fait faire certaines de ses pièces en France. Okay. C'est un fournisseur américain, des bureaux en France. Puis en France, à un moment donné, là, c'était la folie là-bas. Là, il y avait tout fermé. Puis là, on ne pouvait pas recevoir nos morceaux. Uh-huh. Puis,
la chaîne logistique d'approvisionnement.
Ça ne marchait pas super bien. Puis là, je disais à mes clients que je savais là, qu'ils voulaient passer leur commande. Je dis, mais là, passez-la le plus vite possible. Comme ça, moi, je peux passer ma commande chez mes fournisseurs. Oui, ça va être plus long, mais si tu attends 6 mois avant de passer ta commande, ben rajoute un autre 6 mois.
Ouais.
Il n'y a pas de magie.
Puis même là, maintenant, avec le côté service, on fait encore plus de recherches.
Ah, effectivement. OK, parce que tu t'occupes des requêtes de différents clients.
Oh, ouais, c'est toute la recherche. C'est
vrai.
C'est pour mettre... tu sais, il y a des gens qui travaillent... nos clients, il y en a un qui travaille sur le cancer. Il y en a d'autres qui travaillent sur l'arthrite. Il y en a un qui travaille sur les hernies discales.
Okay.
Les mal de dos, là.
Oh, ouais. ça doit être intéressant.
Oui, c'est super intéressant. T'as d'autres qui travaillent sur la peau, sur la cornée.
Et vous apprenez constamment, là.
Exactement. Puis c'est ça qui est le fun avec le côté service. Tu sais, on a passé beaucoup de temps, plusieurs années à développer l'appareil. Puis là, maintenant, on l'utilise. On a comme presque plus de fun à l'utiliser qu'à le développer. Mais bien qu'on continue le développement aussi.
Ouais.
Mais c'est le fun de faire les deux côtés. Puis le côté service vient aider le côté device aussi, le côté instrument. Mm-hmm. Parce que ça te donne, quand tu développes l'instrument, tu sais, ah oui, si je vais être capable de faire tel type de choses, ben là, je vais le designer de telle façon.
En tout cas, moi, je voudrais que les gens sachent, tu as les yeux pétillants quand t'en parles. Tu as vraiment l'air d'encore triper.
Comme je t'ai dit,
là.
C'est juste à me partir. Là,
tu aimes vraiment beaucoup ce que tu fais, je pense.
Oui. Ben, c'est ce que tu veux, là. C'est de...
Oui, mais ça arrive pas toujours. Des fois, on veut des choses, puis...
Ah, ouais. OK. Non.
T'as l'air sur ton X, là, je te dirais.
Ouais.
Mais oublie pas, il a demandé au Père Noël de moins voyager, ça s'est fait. J'ai l'impression que...
Là, tu sais pas ce que j'ai demandé cette année.
On va le savoir la prochaine. Mais, donc, moi, je trouve ça fascinant. Au baccalauréat, t'as eu une superbe opportunité d'un professeur superviseur. Est-ce que tu te voyais comme entrepreneur à cette époque-là ou est-ce que tu étais le genre d'étudiant qui voulait s'intéresser à toutes sortes de projets, qui voulait démarrer des trucs ou tu suivais le cursus puis la vague t'amenait au point final?
Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 16 ans, puis il y a une maison que... Moi, je viens de Rimouski. C'est sûr que la grande ville, c'est impressionnant. Puis je me rappelle un soir... On était parti de la rive sud de Montréal, puis on s'en allait à Montréal, puis on passait sur le pont Champlain. En tout cas, c'est l'image que j'ai dans ma tête, les lumières, c'était magnifique. Puis je me rappelle, il m'a posé une question, il dit, où est-ce que tu te vois quand tu vas avoir 30 ans?
Mm-hmm.
Puis j'avais dit, ben moi, je pense que je vais avoir une entreprise, puis J'avais dit ça, mais ça m'est... J'ai pas repensé à ça. J'étais au bac, première année, deuxième année, troisième année. J'ai jamais repensé à... Je me suis jamais dit, ah ben oui, c'est vrai, je me disais que je voulais une entreprise, il faut que je fasse ça. Mais c'est comme, j'ai comme saisi les opportunités quand ils sont présentées.
Ouais.
Planet Hoster, fier commanditaire de Simplement Audacieux. Quelles sont les pertes estimées à votre entreprise si vos courriels cessent de fonctionner pendant une journée? Planet Hoster vous offre des solutions dédiées de messagerie fiable et redondante afin de favoriser le succès de votre entreprise. Planet Hoster, hébergez votre monde.
Nous, quand on a parti BioMomentum, en équipement, on avait 2 ordi, un serveur, puis on avait...
Une machine à café.
Non, mais tu sais, ça a pas coûté cher, là, partir ça en équipement. Puis pour l'inventaire, là, on avait même pas 10 000 d'inventaire. Tu sais, c'était des quantités minimum. Puis de la façon, le fait d'avoir des fournisseurs un petit peu partout, qu'est-ce qui était bien, c'est que nous, on recevait la commande, puis on commandait juste nos pièces au moment que j'avais eu la commande, puis même qu'on demandait tout le temps un dépôt. Ça fait que nous, pour notre flux de trésorerie, cash flow en français, c'était idéal. Puis quand t'es une start-up, t'as pas une scène. C'était parfait. Ça fait que ça a permis là, de pouvoir avoir une bonne progression. Là, on est rendu à un point où est-ce que, financièrement, ça va mieux. Et puis, ça va bien. Puis là, on est capable d'investir finalement dans des équipements. Parce qu'évidemment, un équipement, t'achètes un équipement à 30 000, c'était 30 000 piastres-là,
faut le trouver quelque part.
Ben, faut le trouver, mais c'est surtout que c'est pas une dépense. C'est un équipement. Donc, il est là, puis c'est soit de l'argent que tu as emprunté ou soit un profit que tu as fait. Là.
Ouais,
c'est
ouais.
De là que ça vient.
L'argent vient de quelque part.
Faut qu'elle vienne de quelque part, tu sais.
Okay. Ça vient d'où, là, non? Biomomentum?
Oui, Biomomentum, ça, c'est...
Ah, il y a un large sourire, c'est intéressant.
Non, mais c'est parce que tu peux trouver un bon nom.
Ouais.
Moi, puis moi, je pense que ce nom-là, il est vraiment bon. Là. Mais ouais, c'est la copine d'Éric, mon associé, qui l'a trouvé. On était au tout début là, du projet. Puis là, on cherchait un nom. Puis là, on avait pris une feuille. Puis là, on avait mis plein de mots ensemble. Mm-hmm. Puis là, on cherchait. Puis là, lui, il en a parlé à sa copine. Et elle travaille en langue. Là.
OK.
Puis là, il m'arrive puis il me dit... Là, il me sort une coupe de nom, mais je pense qu'il savait que c'était le bon. Là. Puis, là, t'es là, ah, ouais. Puis là, il dit Biomomentum. Je, ah! Là, tout de suite, je suis allé voir si biomomentum.com était libre,
ouais.
Évidemment. Puis 5 minutes après, on avait acheté le domaine.
OK.
Ah, le déclic a été là. Il y a eu un coup de foudre pour le nom.
Oh, oui. Puis aussi le domaine, tu sais, il faut que tu aies le domaine.
Ouais, c'est sûr.
Puis tu sais, j'ai acheté biomomentum.com.org. Tous les points.
Pas .qc, .ca, ça n'existait plus en 2009, je pense.
Non, j'ai okay. .ca, .us, okay. .uk.
Mais il y a l'avantage d'être bilingue comme nom aussi. Ça se prononce
ouais, exactement,
bien.
Ouais, exactement, ça se dit bien dans les deux langues.
C'est vrai. Mm.
Puis, Éric est encore dans l'aventure avec toi.
Oh, oui, mais il est au bureau, il travaille.
Ça fait 5 ans.
On le salue.
On le salue. Ça se vit comment, là, une relation de cofondateur?
On prend les décisions à deux tout le temps.
OK, pour vrai.
C'est simple que ça. Puis s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ben on prend pas la décision, c'est tout. Là. Faut qu'il y ait consensus.
OK, vous marchez par consensus.
Exact. Puis, ben c'est pas tout. Tu sais, on n'a pas tout le temps des bonnes idées. Hein, fait que c'est bon d'être deux. Là.
Y a-t-il des moments où vous avez vraiment eu des visions très, très différentes là, puis que ça vous a challengé particulièrement?
Non. Ben ça c'est intéressant parce que on se demande tout le temps bon un concours aux entreprendre que ça fait puis okay. Là ça permet de prendre du recul puis justement de revoir sa vision, tu sais.
Okay.
Puis justement on a eu beaucoup de discussions dans le dernier mois évidemment là-dessus sur où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, mm-hmm. C'est quoi notre vision puis on s'entend.
J'aimerais parler de brevets.
Ouais.
Commencer de la préparation, planification, dépôt de brevets.
On l'a pas fait. En fait,
ah,
nous.
Okay. J'ai l'impression que vous en aviez.
Oui, on en avait. On en a plus.
OK.
Oui, on avait. Oui, on avait 3 brevets. Puis, donc, c'est ça, un brevet, c'est bon 20 ans. Et puis, dans un brevet, tu divulgues toute ta recette. Puis ça veut dire que dans 20 ans, quelqu'un peut te copier.
Exact.
Puis moi, ça fait plus que 20 ans que je travaille sur ce projet-là. Là. Donc, on avait des brevets. Les brevets sont plus bons. Puis, en tout cas, on a lu beaucoup ce sujet. Puis on parlait à bien des gens. Puis pour bien défendre une technologie, ça prend 6 brevets.
Oh!
Pour une technologie. Okay. Parce que ton brevet, qu'est-ce qu'il vaut? C'est le... Tu vas savoir la vraie valeur de ton brevet le jour que quelqu'un va te poursuivre en justice.
Mm-hmm. OK.
T'sais, avant ça, qu'est-ce qui vaut ton brevet?
Puis il vaut l'argent que tu es prêt à mettre pour le défendre.
Exact, c'est ça. Puis en tout cas, t'sais, nous au début, on avait pas beaucoup d'argent évidemment. On avait les frais de brevet. On les a maintenus un certain temps. Ça nous a coûté vraiment beaucoup d'argent. Et puis... les brevets, finalement, sont venus à échéance. On a arrêté de payer. Puis, les nouvelles technologies qu'on développe, il y a beaucoup de secrets industriels. Donc, tu divulgues pas ce que tu as fait. Ça veut dire que dans 20 ans, quelqu'un ne peut pas te copier. Mais c'est sûr qu'ils peuvent le développer.
Par eux-mêmes.
Par eux-mêmes. Puis, pour les instruments de laboratoire, on s'est rendu compte que, étant donné que nos clients, c'est des profs universitaires, si je leur donnais la recette, j'ai l'impression qu'ils le feraient juste dans leur sous-sol. Non, mais c'est vrai.
Non, excuse, je viens de voir Breaking Bad.
Mais la part, c'est qu'ils ont le droit. Tu peux,
oui,
c'est,
oui.
Tant que tu leur vends pas, on a plusieurs appareils de laboratoire. Ben, en fait, on a un appareil qui peut être dans différentes configurations. On a une configuration qui est vraiment un big winner. Puis j'ai déjà quelqu'un qui est venu me voir au kiosque. Là, on était dans un congrès. Il dit, j'ai tout acheté les mêmes pièces. Là, on va s'en faire un.
Ah, à ce point-là, tu ouais. out loud.
Là, tu roules les yeux parce que...
Parce qu'il n'a pas été capable.
OK.
Il n'y a pas l'ingrédient secret.
Ça ne prend pas juste les pièces.
Exactement, c'est ça. Okay. Ça ne prend pas juste les pièces. Il faut que tu saches... Nous, en gros, c'est le logiciel qui roule toutes ces pièces-là. Là.
Ah, c'est ça que tu disais tantôt, une plateforme.
Là, c'est le logiciel. Tu sais, en gros, on est comme... On fait un logiciel qui roule toutes les pièces ensemble puis qui les fait... comme un petit chef d'orchestre là, qui les fait jouer ensemble.
Okay.
Si on veut parler aussi d'avenir un peu, j'ai beaucoup parlé de notre instrument de laboratoire. On a des instruments de laboratoire, on a des services de test, mais on a aussi un appareil médical. Donc ça, c'est un appareil qui ressemble un peu à notre appareil de laboratoire, mais qui a été miniaturisé pour être utilisé dans une chirurgie,
okay.
chez un patient. Et puis, dans un cas comme ça, c'est un appareil médical. Puis, dans le cas des appareils médicaux, tu dois avoir une certification. Au Canada, tu dois recevoir la certification par Santé Canada, par la FDA aux États-Unis, puis le marquage en Europe. Puis, ce qu'on dit, c'est que d'avoir la certification par la FDA de ton appareil, c'est aussi fort qu'un brevet. Parce que c'est tellement difficile d'avoir mm-hmm. la certification. Mm-hmm. Parce que si quelqu'un veut te copier, ben lui aussi, il doit avoir la certification.
OK.
C'est que si tu fais un brevet puis tu lui donnes la recette...
Pas mal plus facile qu'aller chercher sa certification.
Fait qu'est-ce que là, tu veux lui donner une longueur d'avance ou...
Ça a dû être tout un casse-tête, par exemple, hein? Prendre ces décisions-là stratégiques.
On a changé d'idée, évidemment.
Oui, hein?
Oh, oui.
Ouais.
Des fois, on se dit. Puis des fois, on se questionne aussi. C'est-tu la bonne stratégie? Je sais pas. Mais la propriété intellectuelle, l'idée, c'est toujours en développer de la nouvelle. Là. Tu peux pas.
Okay.
Tu sais, moi, je crois pas à ça, justement. Ah, je développe. C'est le BlackBerry, puis je m'assieds là-dessus, puis je ramasse mes royalties.
Ouais, mais on sait comment ça finit.
Bon, on sait comment, exactement. C'est un bon exemple.
C'est un très bon exemple.
Ça fait que t'es aussi bien de continuer à innover là, comme d'autres.
Puis là, vous avez une équipe. C'est pour ça que je te posais la question, c'est quoi le profil des employés? Mais si vous êtes assis sur une équipe de 12
exact.
Ingénieurs, chercheurs...
Ce qu'on veut, c'est ça, c'est de continuer à innover pour que... Justement, toujours rester en avant. Donc, parce que demain matin, je pourrais avoir quelqu'un là, qui décide de, je vais me créer une compagnie similaire à Biomomentum, je vais faire la même chose, mais tu sais, on veut toujours rester en avant. Là. Tu peux pas juste attendre. Là.
Est-ce qu'il y a un aspect de ton entreprise ou de l'histoire d'entreprise qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé ça mentionner à l'intérieur du podcast?
Oui. Ben oui, évidemment.
Go!
Go! OK. Non, je veux juste parler du. Lorsqu'on a créé Biomomentum, donc on était dans cette autre entreprise lavalloise là, ça allait pas bien, ils ont changé de CEO pour essayer de redresser les choses. Puis là le nouveau CEO rentre, puis lui il était là pour faire du ménage.
OK.
Puis je me rappelle d'aller dans son bureau avec le CFO, celui des finances. Puis là je leur dis bon ben moi je suis prêt à m'en aller là. T'sais, Eric nous avait gardé. Je sais pas, je pense qu'on faisait un bon travail là. Mais je pense qu'ils nous avaient gardé vraiment pour pouvoir s'occuper des anciens clients. Donc, ils voulaient être sûrs de ne pas avoir de problème légal. T'sais, eux autres, c'était ça leur priorité. Puis là, je suis allé les voir. Je dis, ben moi, tu sais, me semble, j'ai l'impression qu'on perd notre temps ici, puis on pourrait s'en aller, puis créer une compagnie, blablabla. Là, puis le CEO, ben, parfait, c'est une bonne idée, puis je vais vous aider là-dedans.
Oh, wow.
À monter le projet, puis tout ça. Puis j'ai... Puis on a passé beaucoup de temps, tu sais, à développer les termes, puis tout ça, puis justement pour la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on fait, les locaux, tu sais, tout ça, les clients, puis on a essayé de drafter une belle entente, puis je me rappelle, le CFO, il demande, mais pourquoi tu fais ça?
Ben
ouais. Tu perds ton temps, là. Tu sais, pourquoi tu fais ça?
Ouais.
Puis là, je vais tout le temps me rappeler qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, ben, c'est mon devoir de citoyen corporatif.
Nice.
Il dit, pourquoi je laisserais, il dit, si je fais rien, ben ces deux gars-là, puis toutes ces idées-là, ben, ils vont mourir.
Ouais.
Mais il dit, moi, ça me donne rien, mais en tant que bon citoyen, ben, je dois m'assurer que ça puisse partir.
Que toute cette recherche-là tombera pas.
Exact. Tu sais, que ça mourra pas. Pourquoi, tabletter ces beaux projets-là?
Ouais.
Ben, j'ai du monde ici qui veut leur prendre. Puis lui, il avait aucun intérêt financier là-dedans. Là. Il faisait pas ça pour lui. Il disait, c'est mon devoir de citoyen.
Wow.
Ça fait que ça, j'avais fait, wow.
Si tu avais un conseil pour les autres jeunes étudiants, profils entrepreneurs, entrepreneurs qui se lancent dans une aventure qui ressemble à la tienne?
Il y a dans toutes les universités, il y a un centre d'entrepreneuriat. Là,
OK.
Là, ouais. Que, j'irais, ce serait la première porte que j'irais cogner. Nous, c'est ce qu'on a fait. Puis ça m'amène une autre anecdote. Là. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés.
On a tout notre temps.
Nous, on a fait à l'Université de Montréal. Il y a un centre entrepreneurial là-bas. Puis on a fait la cohorte. Là, on a une vingtaine d'entreprises. Puis sur les 20 entreprises, ils sélectionnaient. Il y avait un premier comité qui sélectionnait 6 entreprises finalistes.
OK.
Ça fait que là, notre mentor était vraiment excité. Ah, les gars, là. On était dans les 6 finalistes, vous avez bien scoré, je pense que vous allez gagner, tu sais, au final. Puis, sur les 6, on est fini dernier.
Oh!
Dernier. Parce que je pense que le comité nous a pas cru. Le comité pensait qu'on était des scientifiques, qu'on n'était pas des entrepreneurs.
Mm. OK.
Ça fait qu'on a fini dernier. En tout cas,
apprise pour vous, c'est de dire c'est la façon qu'on présente, peut-être.
Je suis presque là.
Je t'écoute, je te suis.
mais en fait, c'est ça. Mais ouais, il y a peut-être 2 leçons. Oui, il faut adapter son discours, évidemment. Tu sais, faut adapter son discours pour la personne à qui on parle.
Ouais.
C'est évidemment. Et puis, mais après ça, c'est sûr qu'on était vraiment déçus. On a quand même gagné comme du service avec un service comptable. Ça, c'était bien parce qu'on est encore avec le même comptable depuis le début.
Ah.
Puis,
12 ans plus tard.
Oui, 12 ans plus tard, il me donne toujours des bons conseils. On se parle une fois par année pour les impôts. Puis, mais
c'est
parfait. C'était bien. Mais c'est ça. Donc, on était vraiment déçus. Mais là, après ça, on s'est retroussé les manches. On s'est inscrit au concours aux entreprendre à l'époque.
Ouais.
Il y avait un autre nom. Puis là, on a gagné.
OK.
Puis, ça fait que là, le conseil, c'est de ne pas abandonner. Tu sais, tu vas en avoir des échecs. Là.
Ouais.
C'est sûr que tu vas avoir des échecs. Tu peux pas gagner à toutes les étapes. Là.
Mm.
Puis, tu sais, ça va dépendre des gens qui sont devant toi aussi, s'ils croient ton histoire ou pas. Là.
Mm.
C'est là que tu vas apprendre le plus dans les échecs. Là. On le dit, puis c'est facile à le dire. Oh. Mais quand tu es dedans, c'est pas le fun.
Exact. Puis, tu sais, se faire dire, non, toi, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un scientifique. Là. Oh. Ça a fait mal à l'époque. Là.
Mais ça a fait de remise en question, j'imagine. Là.
Exact. Ouais. Puis, ça a fait aussi, on a eu un beau setup pour notre entrevue au provincial. On est rentré, c'est une salle de conférence au dernier étage au centre-ville de Montréal, là, l'entrevue. Puis on est rentré avec des sarraux.
OK.
Scientifiques.
Uh-huh.
Puis quand on a commencé l'entrevue, on essayait de bégayer puis de faire comme si on était scientifique. Puis là, après ça, on arrache les sarraux.
Mise en scène.
Met ça à terre, puis là, on dit bon, là, on commence. Puis là, on a fait l'entrevue comme ça. Je pense que ça a fait un bon.
Un bon wow.
Ouais. Je pense qu'il y en a qui s'en rappellent là, encore.
Ouais, des fois, il faut surprendre aussi pour attirer l'attention.
Là. Exact.
Donc là, vous avez gagné au régional, région de Laval. Vous en allez au provincial sous peu. On vous souhaite bonne chance.
L'entrevue est jeudi.
OK.
Après-demain.
Oui. OK. On va suivre ça de près.
Mais là, ça va être en ligne. Là, ça sera pas.
Ouais, c'est dommage.
Ça sera pas genre devant.
Tu pourras pas faire le coup du sarrau, effectivement.
Non, on peut pas faire le coup du sarrau.
Ça se fait sur Zoom, là, mais.
Ouais.
Ça a peut-être moins d'éclat un peu.
Ouais. Écoute, bon succès. C'est vraiment inspirant. C'est vraiment le fun. J'ai l'impression qu'on aurait pu placoter encore longtemps.
Ouais,
on se reprendra, mais définitivement fascinant comme histoire.
Ouais.
Moi, je connaissais pas BioMomentum avant le concours et tout le reste. Honte à moi, mais on va définitivement jeter un coup d'œil à ce que vous faites.
Parfait.
Un gros merci pour ta générosité aujourd'hui et ta présence.
Bien apprécié
encore une fois. Merci, Martin.
Merci.
Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast, partagez-le à votre entourage et écrivez-nous des commentaires. Nous aimerions également entendre vos suggestions d'entrepreneurs inspirants et audacieux pour nos prochains épisodes. Visitez notre site web à lavalinov.com dans la section « Équipe » pour nous rejoindre personnellement.
Vous pouvez écouter le podcast Simplement audacieux gratuitement sur le site web de Lavalinov ou encore là où vous avez écouté cet épisode. Simplement audacieux est une production de Lavalinov.
À la réalisation.
Vidéo Marketing Québec.
Au soutien logistique.
L'agence EMI.
À la musique.
Marc Gravel.
À l'infographie et au marketing.
HKD Design.
Merci à tous.